Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire UDI de Mennecy, vice-président de la région Île-de-France, vice-président de l'association des maires d'Île-de-France. Bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Philippe Dugoin-Clément, vous aviez été très critique après les déclarations d'Emmanuel Macron sur le deuxième confinement. C'est ce week-end que tous les commerces dits non essentiels ont pu rouvrir après un mois de fermeture. Exception faite des cafés et des restaurants, je pense aux salons de coiffure, aux librairies. À 4 semaines de Noël, c'est un soulagement pour les commerçants de la région Île-de-France.
C'est un soulagement, mais j'aurais surtout envie de vous dire que de temps perdu, parce que ce qui est mis en place cette semaine, c'est ce que l'ensemble des élus locaux, des maires d'Île-de-France et d'ailleurs demandaient depuis le début du confinement. On a perdu un mois, tout ça pour des effets d'annonce du gouvernement qui est certainement allé beaucoup trop loin dans ses déclarations et qui a mis un point d'honneur à ne pas se dédire. Donc effectivement, maintenant, on peut considérer que rentrer dans un magasin de jouets, de vêtements ou de librairies n'est pas plus dangereux que de rentrer dans une grande surface et qu'on peut aller acheter en grande surface des livres et pas uniquement sur Amazon. Je crois qu'on a vraiment perdu un mois sur ce sujet, c'est dommage. Alors mieux vaut tard que jamais, tant mieux. Après, on est extrêmement inquiet aujourd'hui sur la situation des restaurants, des cafés, de l'ensemble des entreprises de loisirs, parce qu'au-delà des restaurants et cafés, c'est les salles de sport, c'est l'ensemble des salles fermées de jeux ou ludiques, et qui, si elles ne bénéficient pas d'aide extrêmement importante du gouvernement, de l'État, risquent de ne pas arriver jusqu'au 20 janvier et de ne pas se remettre de la potion amère qu'on leur fait boire.
Dans votre ville de Mennecy, les habitants ont pu exprimer leur solidarité aux commerçants en se déplaçant spécifiquement dans leur magasin ce week-end?
Oui, alors après, il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient faites au travers d'aides de la commune, au travers de pick and collect qui avaient été mises en place, ou de vente à emporter, ou en livraison par un certain nombre de commerçants. Mais on est quand même sur des choses qui, quand elles sont mises en place, permettent de maintenir la tête hors de l'eau des commerces, mais ne permettent guère d'aller au-delà. Alors il y a une forte solidarité, je trouve, globalement des Français par rapport à leur commerce de proximité, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, sans dénier aucunement la gravité de la pandémie, on gagnerait fortement à essayer d'être un petit peu plus rationnel, un peu plus pragmatique, de travailler avec les élus locaux pour adapter les systèmes territoire par territoire. Est-ce que avoir la même réglementation en Corse, en Île-de-France et dans le Grand Est correspond aux réalités pandémiques du territoire? J'en suis absolument pas convaincu. Et puis on voit les difficultés qu'on a aujourd'hui sur les stations de ski. Très bien, on dit qu'on les ouvre, mais enfin, sans remontée mécanique, sans restaurant, sans café, alors que dans le même temps, les stations de Suisse, les stations de ski en Suisse vont ouvrir. On l'a vu sur la question des lieux de culte, où on a eu une aberration qui d'ailleurs a été condamnée par le Conseil d'État ce week-end, et je m'en réjouis, de limiter à 30 personnes par lieu de culte, qu'on soit dans une église qui contienne 50 personnes, ou dans une cathédrale qui en tient des milliers en temps normal. Donc il y a une inadaptation totale des mesures qui sont décidées aujourd'hui, comme d'ailleurs depuis le mois de mars, par ce gouvernement avec les réalités locales. Je pense qu'on gagnerait à décentraliser, mais réellement, c'est-à-dire à donner une part de responsabilité plus forte aux élus locaux, charge à eux d'adapter les systèmes, d'adapter les dispositifs.
Et Jean Castex avait été présenté comme un élu local qui allait parler avec les élus locaux. À vous entendre, vous avez le sentiment que l'État décide d'en haut. On est toujours dans la verticalité, on n'est pas dans la concertation avec les élus locaux.
Il y a aucune concertation avec les élus locaux. Depuis des années, en particulier depuis le début de cette crise au mois de mars, les élus locaux, au travers des associations, sont au mieux prévenu 24 ou 48 heures en amont de ce que le gouvernement décide. Il n'y a aucun travail en commun qui est fait. Toutes les propositions des élus locaux, et Dieu sait qu'on en a fait beaucoup au travers de la NIF, l'Association des maires d'Île-de-France, depuis le début du déconfinement pour réouvrir les commerces, font l'objet de réunions courtoises, mais ne sont pas pris en compte. On est dans un État qui est autiste, qui décide tout seul. On nous a présenté un Premier ministre comme effectivement un élu de terrain. C'est avant tout un haut fonctionnaire qui est là pour perpétuer la tradition d'un État jacobin, centralisateur, qui décide de tout pour tout le monde, sur tous les territoires, avec une logique de dire que la réalité doit être la même dans tous les territoires, l'heure doit être la même dans tous les territoires. C'est une erreur. La France aujourd'hui ne peut plus fonctionner comme ça. On voit le nombre de situations absolument aberrantes auxquelles on est confronté. Donc je crois véritablement que s'il y a un enseignement à tirer, le président de la République parlait il y a quelques jours des points de force et des points de faiblesse dont il faut tirer des enseignements quand il est intervenu sur l'ensemble des télévisions, eh bien, je pense que notre pays aujourd'hui a une très grande faiblesse qui est sa surcentralisation. Alors c'est très compliqué pour un État et pour des gens qui sont issus de cette structure de l'État d'une certaine manière, d'accepter un abandon de pouvoir ou une réduction du champ de pouvoir, c'est quelque part se faire harakiri, mais je crois que si on n'a pas cette transformation, dans un pays qui va de plus en plus vite, où les aspirations locales sont de plus en plus fortes et où les différenciations locales ne cessent de s'accroître, eh bien on sera dans un pays qui sera incapable de répondre aux besoins de ses habitants.
Jean-Philippe Dugoin-Clément, le gouvernement a reconnu qu'il y avait un impact psychologique très fort de cette crise sanitaire. Le moral des Français est très affecté. Est-ce que vous redoutez les conséquences à terme sur le moral des Français, sur le rapport aussi au pouvoir ?
On a un pays qui ne croit plus en ses institutions, qui était déjà assez décliniste en termes de sensibilité. Les Français depuis des années n'ont plus confiance en eux, ne croient plus en eux, ne croient plus en la grandeur ou à la potentialité de leur pays, souvent à tort d'ailleurs, mais depuis le déconfinement, le premier déconfinement, moi je suis absolument frappé de voir que le pays est dans une espèce de dépression généralisée, avec certaines personnes qui sont terrorisées, qui sont dans une espèce de psychose complète, d'autres qui sont complètement amorphes, amortis, qui ne croient plus en rien, et puis une autre partie de la population, mais ce qui est un syndrome de dépression, qui est ultra agressive, en surréaction surtout, et je veux dire ça, moi je suis très inquiet du printemps prochain, quand on va avoir la réalité du choc économique qui va arriver, le déclassement social pour beaucoup de gens qui vont perdre leur travail, ou qui vont perdre une partie de leur rémunération au travers de primes qui ne seront pas versées, dans un contexte de méfiance, pour ne pas dire de défiance, je pense qu'on peut être sur un climat extrêmement compliqué et que ce qu'on a vécu avec les gilets jaunes peut être une toute petite chose par rapport à la vague qui peut arriver au printemps.
Vous redoutez une crise sociale. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour anticiper cette crise sociale, Jean-Philippe Dugoin-Clément ?
C'est extrêmement difficile parce qu'on est dans un pays, je vous dis, qui n'a plus confiance depuis des années, où il y a des choses qui sont très ancrées. Pour le coup, le gouvernement a plutôt ouvert les paravents économiques autant qu'il pouvait le faire. Après, beaucoup de mesures qui sont prises aujourd'hui sont vécues comme injustes. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement clivant, d'extrêmement fracturant pour les gens. Et les commerces, comme l'union de culte d'ailleurs, font partie de ces choses qui créent des sentiments d'injustice. Je pense que, vous savez, on est sur une ligne de crête où on navigue entre deux écueils, entre deux précipices qui sont d'un côté la crise sanitaire et de l'autre la crise économique. On s'est très peu intéressé à la crise économique. La crise sanitaire, elle est temporaire. La crise économique, elle risque de perdurer beaucoup plus longtemps que la crise sanitaire et d'avoir des conséquences structurelles sur la société beaucoup plus lourdes. Moi, je vous disais tout à l'heure, il y a toute une partie de l'économie qui va être encore durablement impactée puisqu'on interdit aux gens de travailler au moins jusqu'au 20 janvier. Eh bien, je pense que si on ne met pas des aides colossales pour permettre à cette partie de l'économie, à ces entreprises de passer le cap, on va avoir un schéma schéma extrêmement compliqué. Sans même parler du fait que quand vous discutez avec des commerçants, avec des entreprises qui aujourd'hui n'ont plus d'activité, il y a un sentiment humain de dévalorisation complète avec des chefs d'entreprise, des commerçants qui vous disent mais aujourd'hui, je ne vis plus de mon travail, je ne vis plus de ce que je suis capable de faire ou de ce que je produis, je vis d'aide, je vis d'assistance. C'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je suis. Et ça fait maintenant bientôt un an qu'on crée ce sentiment de déclassement et d'injustice. Moi, je pense qu'il faut impérativement réinjecter dans l'économie d'une part, mais il faut aussi essayer de redonner des perspectives, de redonner une capacité à croire en l'avenir. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que nous n'avons pas.
Vous parliez des bars et des restaurants tout à l'heure qui vont devoir attendre jusqu'à la mi-janvier avant d'espérer une réouverture. Ces établissements ne sont pas que des commerces, ce sont aussi des lieux de vie, ils animent les centres-villes. Est-ce qu'il faudrait leur permettre d'ouvrir avant cette date du 20 janvier ?
Dans des protocoles sanitaires stricts, oui. Enfin, aujourd'hui, les cantines d'entreprise, les restaurants d'entreprise sont ouverts, les restaurants scolaires sont ouverts, et c'est une bonne chose. Qu'après, on interdit les déplacements, on oblige les gens à s'asseoir, on limite le nombre de personnes, on incite éventuellement à voir de l'extérieur, parce qu'on peut aussi travailler sur l'extérieur. Enfin, tout ça sont des choses qui peuvent être faites, qui peuvent être mises en place, avec des réalités différentes en fonction, encore une fois, des territoires. La réalité de territoires avec des taux de contamination extrêmement élevés ou extrêmement faibles pourrait justifier que ce qui est fait en Bretagne ne soit pas ce qui est fait en Centre-Val de Loire ou en Rhône-Alpes. Mais aujourd'hui, on est sur un État, encore une fois, qui a décidé dans sa logique hyper centralisée, jacobine et monarchique, que tout devait s'appliquer de la même manière en France. Eh bien, c'est une erreur et une faute.
Jean-Philippe Dugoin-Clément, le couvre-feu à partir du 15 décembre pour remplacer le confinement et les attestations, avec l'exception des soirs des deux réveillons, le 24 et le 31 décembre, c'est une bonne solution pour que ce déconfinement ne soit pas trop brutal ?
Là encore, je n'ai strictement rien contre les logiques de couvre-feu, pourquoi pas ? C'est pas quelque chose qui me choque, on essaye de limiter les flux, de limiter le phénomène. Le couvre-feu, c'est clair, c'est de faire en sorte que les gens n'aillent pas faire la fête, n'aillent pas partager des moments ensemble, n'aillent pas se croiser, se surcroiser, véhiculer l'épidémie. Très bien. Est-ce que l'ensemble du pays doit être jugé à la même aune par rapport à des situations face au Covid qui sont profondément différentes ? Donc le couvre-feu peut être justifié à Paris, est complètement injustifié à Guéret, mais on l'applique de la même manière sur tout le pays. C'est ça qui est un non-sens. Moi, j'en appelle encore une fois à ce que ce gouvernement comprenne qu'il y a des territoires, que les territoires, les élus locaux, les représentants des territoires ne sont pas des enfants qui doivent être menés à la baguette, mais sont des interlocuteurs avec lesquels on peut échanger, avec lesquels on peut travailler et avec lesquels on peut co-construire.
Un mot de l'actualité, j'imagine que vous avez vu ces images très violentes de policiers agressant un producteur de musique. Il y a eu aussi les manifestations contre l'article 24 de la loi sur la sécurité globale. D'abord, quelles leçons faut-il tirer de ces événements concernant ce producteur de musique qui a été victime d'un tabassage en règle de policiers ?
Oui, il y a deux choses là-dessus. La première, rien ne permet d'excuser ce qui a été commis, ce qui a été fait. Je crois que la justice s'en est emparée. Elle s'en est emparée suite à la diffusion d'images. Très bien. La justice se fera et ce qui a été fait est profondément choquant, scandaleux. Je défends par nature les forces de l'ordre, mais là on est sur quelque chose qui, si les faits sont avérés, ça semble être le cas, semble complètement inacceptable et intolérable. Et d'une manière générale, tout débordement doit être sanctionné et là c'est quelque chose qui est profondément choquant. Au-delà de ça, quand on voit les manifestations violentes, les tentatives de lynchage qu'il y a eu sur des forces de l'ordre ce week-end, on est dans l'expression d'une société, je vous le disais un petit peu tout à l'heure, qui est de plus en plus violente, qui est de plus en plus dans des logiques de confrontation, de radicalisation, de conflits les uns contre les autres. Ça fait maintenant des mois qu'on assiste à un bashing continu des forces de l'ordre et à un bashing continu qui a des conséquences comme celle-là. Alors oui, quand il y a un débordement de la part des forces de l'ordre, il doit être sanctionné, comme dans n'importe quel autre domaine, et la justice fera son travail, mais rien n'autorise aujourd'hui qu'on s'en prenne structurellement aux forces de l'ordre, parce qu'il s'agit des forces de l'ordre, et que ça devient des gens à abattre.
Sur l'article 24, vous êtes favorable à la restriction de diffusion d'images pouvant mettre en cause des policiers ?
La question est l'utilisation du direct ou pas du direct. Moi je rappelle qu'on a eu des policiers qui ont été massacrés chez eux, voilà, et que protéger des personnes et des êtres humains, ça fait aussi partie des devoirs globaux de la société. Voilà, je ne suis pas convaincu que l'article 24 de la loi telle qu'il est proposé aujourd'hui aurait empêché d'avoir une dénonciation des actes qui ont été commis à l'encontre de ce producteur.
Un mot des élections régionales, Jean-Philippe Dugoin-Clément. Est-ce que vous êtes favorable à un report de ces élections au mois de juin? Elles sont censées avoir lieu au printemps prochain.
Le président de la République a demandé à Jean-Louis Debray, qui est une personnalité large, consensuelle et incontestable, de commettre un rapport après s'être entretenu avec l'ensemble des formations politiques. Jean-Louis Debray a proposé un report des élections départementales et régionales, parce que les deux élections ont lieu en même temps, et c'est extrêmement important, au mois de juin. Ce n'est pas quelque chose qui me choque. La situation sanitaire au mois de mars, où est-ce qu'on en sera, personne ne le sait réellement, et ce qui est vrai, c'est qu'avoir une campagne en janvier ou février, ce qui est demain, est quelque chose qui, je pense, peut être assez compliqué. C'est presque plus la campagne, intéresser les gens, avoir un discours politique en période de crise ou d'inquiétude qui peut être presque plus compliqué que la tenue des bureaux de vote, qui objectivement, enfin, on a les transports en commun qui sont ouverts, les entreprises, les industries qui sont ouvertes, mais on ne pourrait pas ouvrir les bureaux de vote. Enfin, c'est une fadaise, mais le problème c'est de pouvoir faire campagne. Donc repousser au mois de juin, on sait qu'on sera au printemps, on peut espérer entre le vaccin, la saisonnalité pour partie de l'épidémie, qu'on soit sur une courbe descendante et que ce soit plus facile de tenir campagne. C'est pas quelque chose qui me choque.
Une dernière question, Jean-Philippe Dugoin-Clément. L'élection présidentielle a lieu dans un an et demi. À gauche, il y a déjà la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Anne Hidalgo se prépare de plus en plus. En revanche, il n'y a pas véritablement de candidature qui s'affirme à droite. Vous qui êtes membre de l'UDI, vous le regrettez? Est-ce que votre candidat, finalement, ce sera Emmanuel Macron?
Bon, écoutez, moi j'ai pas remarqué que l'UDI n'ait jamais fait partie de la majorité présidentielle, voilà. Alors à gauche, il y a beaucoup de gens qui veulent se déclarer très tôt, pensant probablement arriver à préempter l'espace sur leurs adversaires. Et moi je pense que la droite, le centre-droit sont beaucoup plus réalistes. On n'est pas dans des courses à l'échalote, on prend les choses les unes après les autres. Il y a eu des échéances municipales, il y a eu une crise sanitaire, il va y avoir une crise économique, il va y avoir des échéances départementales et régionales. Eh bien, on va d'abord traiter ça, et puis ensuite, on s'intéressera à la question présidentielle en son temps. On est dans 18 mois. 18 mois, c'est extrêmement long, mais je pense que M. Mélenchon peut d'ores et déjà préparer sa candidature pour les élections de 2027. Comme il ne sera pas élu en 2022 et que visiblement, il a ce tropisme de se dire qu'il doit être président coûte que coûte, j'invite d'ores et déjà à annoncer sa candidature pour 2027.
Merci Jean-Philippe Dugoin-Clément. Je rappelle que vous êtes maire UDI de Mennecy, vice-président de la région Île-de-France et vice-président de l'association des maires d'Île-de-France. Bonsoir.
Merci, au revoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.